amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, coproduit avec French Web. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Alors comme chaque semaine, cette émission fera l'objet de 10 nouveaux NFT qui sont l'occasion pour vous de non seulement prendre la propriété de cette émission, mais aussi d'accéder à la communauté des fans de Silicon Carnet, la fameuse Hacienda. Il y a des conversations passionnées avec les auditeurs et moi-même et mes invités, et je vous invite vraiment à rejoindre. Il vous faut le NFT, c'est le pass, c'est le sésame pour entrer dans cette communauté de l'Hacienda. Et je vais continuer à innover. Par exemple, de créer un NFT spécial qui va vous donner une minute d'antenne dans Silicon Carnet. Il vous faudra ce NFT. En achetant ce NFT, vous avez une minute d'antenne pour présenter votre projet. J'aimerais bien que des podcasteurs, j'écoute plein de podcasts qui viennent faire la promotion de leur podcast auprès de mes auditeurs, ça serait génial. Et puis, vous achetez ce NFT, cette minute, elle est à vous, vous en faites ce que vous voulez, soit vous l'utilisez, soit vous la donnez à quelqu'un, soit vous la revendez, peut-être que vous allez l'acheter pas cher. L'Ethereum est en train de se casser la gueule, c'est les soldes en ce moment dans les NFT, c'est le moment d'acheter des NFT et des cryptos, et vous pouvez la revendre peut-être l'année prochaine, demain, quand l'Ethereum aura augmenté, Inch'Allah. Allez, retour à votre épisode. 2021 a été une année record pour les levées de fonds dans le secteur alimentaire. Selon Crunchbase, 5 milliards de dollars ont été investis dans l'agtech. L'agtech, c'est les technologies de l'agriculture. C'est presque 2 milliards de dollars de plus qu'en 2020. Que l'on parle de conservation alimentaire, de la création d'aliments à partir de nouvelles molécules ou même de nourriture animale, c'est tout le secteur qui est en plein boom. La robotique, l'impression 3D, l'hyper-personnalisation de nos aliments vont prendre de plus en plus d'importance. Mais au-delà de la technologie, c'est un nouveau paradigme qui émerge, qui est guidé par une sorte de nouvelle conscience et des changements culturels profonds. Cette semaine, dans Silicon Carnet, je vous propose de parler du futur de la food. Et j'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Je suis avec deux invités. Ma première invitée, c'est une habituée. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que toi aussi, tu vas avoir ton rond de serviette dans cette émission. Marie, c'est Marie Delay. Elle est Euroquity Business Analyst et Development Manager à BPI France. Et c'est quoi cette histoire d'Euroquity? C'est nouveau cette histoire?
Alors, pas du tout. Bonjour Carlos.
Salut.
Bonjour Basile. Euroquity, c'est une plateforme de mise en relation de BPI France qui a été créée en 2008 et qui met en relation donc des startups avec des investisseurs qui initialement étaient sur la France et aujourd'hui elle est à l'international, notamment en Europe.
Ah! Mais j'avais zappé ce truc-là, alors c'est bien que tu nous le reprécises. Et donc, tu es business analyst et development manager auprès de cette plateforme de BPI France, mais tu es aussi et surtout pour moi l'éditrice et la grande productrice de cette newsletter génialissime, In Bed With Social. Je suis dithyrambique sur cette newsletter. Et d'ailleurs, je pense que tu vas avoir toi aussi ton surnom dans l'émission. Je vais t'appeler ma muse parce que c'est très honnêtement, je ne sais pas combien de temps tu passes à faire cette newsletter, Marie, mais c'est absolument génial. Ton travail est remarquable. Pour moi, ça m'inspire. Et d'ailleurs, je t'invite à chaque fois à venir nous parler d'un sujet. Et ce sujet-là, du food et du futur de la food, ça a été un article de ta newsletter il y a combien de temps? Il y a quelques semaines, c'est ça?
Oui, il y a quelques mois.
Quelques mois. Et je l'avais noté, je m'étais dit, il faut absolument qu'on fasse une émission parce que tu fais un travail. Moi, j'essaye de travailler, de rassembler de l'information. Et quand je reçois ta newsletter, je fais ce travail de recherche aussi. Mais en fait, il y a déjà tout dans ta newsletter et bon, tu me facilites le boulot. Donc, excuse-moi, je fais la version audio finalement de ton post qui est génial ici, mais qui parle du futur de la food. C'est quoi tes prochains articles?
Alors, j'en ai un sur l'odorat, ce qui va se passer. Alors, j'appelle ça l'odeur des métaverses, mais ça ira un petit peu plus loin que ça.
Ouais.
Et j'ai un autre sujet, d'ailleurs, qui est un petit peu en rapport avec cette émission, qui est ce que j'appelle, moi, la grande ère des illusions.
Okay.
Alors, Peut-être que c'est pas le moment d'en parler, ou alors peut-être que je vais dire quelque chose très rapidement, mais en fait, si tu regardes, bon, on va parler aujourd'hui des protéines alternatives. Et des protéines alternatives, quand on parle par exemple des protéines végétales, on essaie de te faire manger des protéines végétales qui ressemblent à des nuggets de poulet, de poisson, de viande, donc des simili. Mmh. Et en fait, si tu commences à regarder avec tout ce qui va être nouvelles technologies, fermentation, même cellulaire, et ben en fait, on nous donne l'impression de manger quelque chose qui n'est pas réel, en fait. Enfin, tu vois, donc, si tu regardes même, on a déjà traité les deepfakes dans l'émission.
Ouais, je pensais exactement à ça, ouais.
Ben voilà, ouais. Si tu commences un petit peu à faire toutes les connexions avec l'essor aussi des technologies immersives, des métaverses, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, on va rentrer dans une ère d'illusions, en fait, de grandes illusions.
D'illusions et peut-être d'illusions alimentaires, parlons-en, c'est justement le sujet de cette émission aujourd'hui. Bah, écoute, on va tous s'abonner à In Bed With Social, on trouve ça sur Google assez facilement et on s'abonne, c'est gratuit, hein, c'est ça Marie?
Absolument, et il y a une version française, parce qu'In Bed With Social, c'est la version anglaise, et la version française s'appelle In Bed With Tech.
In Bed With Tech, si vous voulez la version française. Ok, Marie, installe-toi. Tu es chez toi ici dans Silicon Carnet. Merci de ta présence. Mon deuxième invité, c'est Basile Lègre, qui est cofondateur d'une start-up géniale qui est à Station F. On l'a trouvé là-bas. Station F, c'est un peu le bazar qu'on fait de la start-up. Qu'on fait, il y a plus de 1000 start-up, tu me disais, Basile, à Station F. Donc, à chaque fois, on trouve des pépites, des nuggets à Station F quand on parle d'un sujet. Et on a trouvé Réglo, que je ne connaissais pas, et qui est une start-up absolument géniale, qui fait de l'alimentation pour chiens et chats. C'est ça, Basile ?
Oui, salut Carlos, salut Marie. Exactement, donc avec Réglo, ce qu'on propose, c'est donc l'alimentation pour chiens et chats, qui se veut plus équilibrée, plus durable. Et pour ça, l'innovation qu'on apporte sur le marché pet food, c'est de remplacer la viande par des protéines d'insectes. Il y a énormément de qualités dont je vais vous parler, c'est beaucoup plus complet. Et par ailleurs, en fait, ce sont les protéines animales les plus respectueuses de l'environnement, qui demandent beaucoup moins de ressources et qui répondent donc à la transition écologique qui est plus que nécessaire de nos jours.
Ouais, absolument. Et c'est parfaitement dans le sujet. Et en préparant cette émission tout à l'heure, avant d'enregistrer et d'appuyer sur record, on parlait un petit peu tous ensemble. Et Marie, tu me disais, la pet food, c'est un peu l'antichambre. Non, c'est Basile qui me disait, la pet food, c'est un peu l'antichambre de la food pour les humains, quoi. C'est ça, Basile ?
Ouais, bah il y a deux phénomènes intéressants. Le premier, c'est qu'il y a un anthropomorphisme qui est juste délirant dans notre domaine.
Ah ouais, c'est dingue.
Quand tu es propriétaire de chiens, de chats, tu vas te dire, ce qui est bon pour moi est bon pour mon animal. Et donc, on a vu des très grosses tendances depuis 2010, comme le sans céréales, sans gluten, vraiment tout cassé dans notre marché. Ouais. Et par ailleurs, avec les tendances food s'appliquent, mais avec un petit peu de retard sur notre industrie. Ouais. Et dans l'autre sens, sur les protéines, là, c'est vraiment justement un petit peu une zone de test où des protéines qu'on aurait du mal à manger en tant qu'humain, comme les insectes, comme la viande cultivée.
On va les refiler à notre chien pour voir s'il les aime, et peut-être que s'il les aime, peut-être que c'est bon pour moi aussi, quoi. C'est ça, quoi. En fait, ça va dans les deux sens.
Exactement. En fait, on se dit, ok, moi, je suis conscient par exemple, des problèmes environnementaux de l'industrie, de l'agriculture et de l'élevage, ou des conditions de bien-être animal. Et donc, il faut trouver des protéines plus durables, plus respectueuses des animaux. Moi, je suis pas encore prêt à manger des insectes. En revanche, mon chien va manger des croquettes comme tous les jours, dès lors qu'elles sont équilibrées, qu'elles sont bonnes pour lui. Peu importe, en gros, ce qu'il y a dedans, que ce soit des insectes ou des choses que je mettrais pas personnellement dans mon assiette, mon chien, lui, est prêt à faire l'effort et à faire un acte citoyen, en quelque sorte.
Donc, en fait, les animaux, ils sont moins regardants que nous. Ils sont beaucoup plus, en fait, beaucoup plus attentifs à la planète, en fait, que nous. Ils sont programmés comme ça, ils mangent, et visiblement, ils adorent, en fait, votre bouffe, qui est une nourriture à base, justement, de nouvelles protéines. Tu en parlais, Basile. On va en reparler aussi dans cette émission. Marie, c'est vraiment l'antichambre, cette pet food, pour la food en général ?
Alors, c'est l'antichambre. Enfin, c'est exactement ce que disait Basile. C'est que d'un côté, c'est l'antichambre, et d'un autre côté, il y a des tendances qui vont être en mimétisme par rapport aux tendances chez l'humain. Mais des choses qui sont absolument fascinantes, sociologiquement parlant. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc, tu sais que moi, j'ai passé 10 ans d'institut, donc tout ce qui est données conso, les requêtes Google, Amazon, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Et si tu prends, par exemple, les calendriers de l'Avent, alors c'est pas tellement la période, mais c'est un bon exemple. Ouais. Figure-toi que il y a maintenant des calendriers de l'Avent pour les animaux. Alors, tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est
il y a une croquette dans chaque case, c'est ça? C'est quoi?
Ah bah, ça peut être plein de choses. Alors, c'est pas du chocolat, parce que le chocolat, c'est toxique pour
c'est
les animaux.
Mauvais.
Ouais. Mais du coup, maintenant, il y a des alternatives à partir de caroub, parce que le caroub, ça ressemble un petit peu au chocolat, et donc on fait pas mal de calendriers de simili en fait chocolat pour chiens et pour chats, pour etc. à base de caroub. Et donc, si tu regardes par exemple les roquettes, parce que j'en parlais récemment avec quelqu'un qui me disait ouais, mais enfin ça c'est il y a quelques personnes qui le font, mais pas tout le monde. Et ben si tu regardes sur Google, en novembre 2019, t'avais 60 000 roquettes. Pour recherche pour la requête Dog Advent Calendar, donc calendrier de l'Avent pour chiens. Mais attends, donc 60 000 en novembre 2019.
Ce qui correspond à Thanksgiving aux États-Unis, hein, by the way. Donc c'est pas étonnant, ça devait être un super cadeau pour Thanksgiving, cette histoire, je pense.
Et puis surtout, tu l'achètes au mois de novembre pour être sûr que t'en auras au mois de décembre.
Voilà, bien sûr.
Novembre 2020, 110 000 requêtes. Ok. Alors
wow.
Tu dis, ça commence à être intéressant. Novembre 2021, 135 000 requêtes. C'est-à-dire que t'as plus que doublé les requêtes
en l'espace de deux ans.
Depuis 2019, ouais, c'est ça, en deux ans, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc ça, c'est assez criant, parce que tu t'imagines quand même te dire que t'as un calendrier de l'Avent pour toi, pour tes enfants, et maintenant pour ton chien, c'est quand même...
Se passe quelque chose. Et tu me parlais aussi de... On va en parler dans cette émission, la deuxième partie de l'émission, on va revenir en détail sur, justement, l'alimentation pour chiens et chats et toutes les innovations qui existent. Et j'ai découvert ça, il y a de la bière pour chiens, c'est ça?
Alors, effectivement, c'est-à-dire que les géants de l'agroalimentaire se sont rendus compte qu'il y avait une véritable opportunité. Alors après, si tu prends Nestlé, par exemple, Nestlé, historiquement, fait de la pet food. Mais t'en as pas mal qui, cette année d'ailleurs, enfin 2021-2022, ont lancé leur déclinaison pour chien et chat, quoi, ou pour chat.
Ouais. Anheuser-Busch, qui est cette grande société alimentaire de bière, qui détient plusieurs marques de bière, et qui est une boîte belge et américaine, lance donc une bière pour ton chien, pour quand tu regardes le foot à la télé, quoi, grosso modo, ton chien à côté de toi puisse aussi, lui aussi, boire sa bière. Je ne sais pas où est-ce que tout ça va nous mener. Marie, je voudrais te poser la question à toi, puisque tu t'es penchée sur cette question en profondeur. Comment tu expliques aujourd'hui le boom soudain qu'on constate aujourd'hui dans le domaine de la food? Il y a un vrai regain d'intérêt pour ce sujet-là. Quelles sont les origines de ce boom?
Alors, on va dire que quand il y a une accélération technologique et de start-up, c'est que souvent, il y a un problème. Et le problème, en fait, il est très simple, c'est qu'on sait que d'ici 2050, la production alimentaire va devoir augmenter de 60% pour nourrir une population mondiale qui est estimée à plus de 9,5
presque 10 milliards. Ouais.
Voilà, exactement. Ouais. Et donc, la question, c'est aujourd'hui, avec les ressources qu'on a, et qu'on a quand même, peut-être il y a des choses qu'on aurait dû faire différemment. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir la planète? Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une productivité accrue dans le respect de l'environnement, de la biodiversité? Donc c'est le vrai sujet. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, on a l'essor de ce qu'on appelle les protéines alternatives. Alors là, Basile a parlé tout à l'heure des insectes. Donc c'est une typologie, en fait, de protéines alternatives, mais il faut savoir que ce n'est pas les seuls. On a les protéines végétales, on a les algues, on a la fermentation et on a aussi l'agriculture cellulaire.
Ouais, on va en parler de tout ce qui se passe dans nos laboratoires. De ton côté, Basile, on observe aussi depuis un petit bout de temps aussi des nouvelles tendances qui se chevauchent et qui convergent un petit peu. On voit de plus en plus de personnes, d'individus qui se tournent vers des régimes végétaliens ou végétariens. Il y a d'autres préoccupations comme ça que vous observez, vous, chez Reglo, qui fondent un petit peu cette tendance et ce boom-là aujourd'hui pour des choses un peu nouvelles?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que en fait, ces changements, ils sont un peu impulsés par les besoins des consommateurs qui veulent plus faire souffrir les animaux, qui veulent un peu plus respecter la planète. Et c'est des mouvements qui sont vraiment amplifiés, je pense, par des actions citoyennes ou associatives comme Greenpeace, comme L214, qui peut-être prennent un nouvel essor avec les réseaux sociaux, sont extrêmement médiatisés. Et donc, on se retrouve avec beaucoup d'innovations. Et assez logiquement, ce sont des startups qui, plus agiles que les grands groupes agroalimentaires, vont innover, vont répondre à ces besoins ces innovations par la suite vont être reprises en fait par les grands groupes et vont devenir la nouvelle norme. Et donc c'est ce qu'on cherche un petit peu à faire avec Reglo, c'est impulser un nouveau mouvement, proposer des sources de protéines plus complètes, plus durables, ramener de la qualité, de la durabilité dans le marché pet food qui en manquait pas mal jusque là, de manière en fait à démontrer tout simplement au grand public que des alternatives existent. Et c'est certain que voilà, les grands groupes vont s'y intéresser, c'est déjà le cas aujourd'hui.
Et Marie, il y a comme le dit Basile, un vrai mouvement presque politique, social, culturel derrière ces innovations.
Ah, absolument. Là maintenant, si tu regardes, alors surtout moi je regarde pas mal ce qui se passe du côté des États-Unis, tout ce qui va être empreinte carbone, etc. Enfin, même sur la food, maintenant tu commences à avoir des labels qui sont presque plus importants avec climate friendly cookie ou impact carbone, et c'est des labels qui ça devient un choix de consommation en fait avant tout reste quoi, donc c'est très très important.
Il y a un alignement en fait de notre pensée, de nos valeurs avec ce qu'on mange quoi, c'est clair et ça c'est évident. Il y a une nouvelle tendance aussi, enfin je sais pas si elle est nouvelle, mais dont tu parles notamment dans ta newsletter, qui est, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, qui est cette agriculture urbaine. On sait qu'on vit de plus en plus dans un milieu urbain et il y a une saturation justement de l'environnement urbain, et il y a une forme de transformation des villes et des maisons qui deviennent presque des jardins, c'est ça ce que tu expliques dans ta newsletter, Marie, c'est quoi cette histoire ?
Exactement, c'est-à-dire que y a beaucoup de questionnements actuellement. Je dirais pas que toutes les solutions sont trouvées, mais en tout cas on réfléchit pas mal. On a parlé, alors il y a aussi l'agriculture verticale de manière générale, mais si on prend l'agriculture urbaine, la question c'est de se demander en fait comment est-ce que on peut finalement répondre à plusieurs problématiques en même temps. Donc l'agriculture urbaine qui consiste à donner plus de verdure. Ça permet aussi d'autoconsommer, ça va permettre aussi de réduire l'impact climatique de l'agriculture et aussi réduire la pollution et d'améliorer la qualité de vie, la qualité de l'air. Donc tu vois, en fait, finalement, on va produire et donc on va pouvoir aussi même finalement produire peut-être des variétés alimentaires qui étaient peut-être disparues par le passé parce qu'elles n'avaient pas forcément d'intérêt pour l'industrie alimentaire qui est quand même capitaliste, voilà. Oui. Ça va nous reconnecter avec la nature. Donc il y a aussi des quêtes qui vont être au-delà de la nourriture, du bien-être, etc. Et qui vont aussi s'intégrer dans d'autres tendances qui vont être du biomimétisme, donc qui consiste à s'inspirer de l'ingéniosité, tu sais, des mécanismes, des fonctionnalités de la nature, en fait, pour innover. Et puis aussi, finalement, de l'hyperphysicalité, tu vois, un peu comme rempart. Voilà. Donc, en fait, finalement, c'est nous nourrir, trouver une solution, tout en contribuant à avoir des méthodes plus durables, plus saines, et puis au sens, on va dire, holistique de la chose.
Oui, mais quand je disais ça, en fait, moi, je suis de Limoges, hein, je suis de la campagne, et c'est très drôle parce que quand je disais ça, je me disais, mais en fait, on est en train de parler d'une sorte de bon sens paysan, parce que ce dont on parle là, cette autoconsommation, essayer de réduire l'impact sur l'agriculture, des aliments plus sains, manger de façon saisonnière, des aliments, on mange pas de tomates en décembre, quoi. Les tomates, c'est maintenant, c'est à partir du mois de juin. Continuer à pratiquer et à manger des, nous en Limousin, on mange des rutabaga, des choses comme ça, ça fait longtemps. Et j'ai l'impression qu'en fait on est en train de revenir à quelque chose, à une sorte... Alors, ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a une forme de nostalgie aussi du passé qui est dangereuse, hein, on le sait politiquement, puisqu'on dit qu'il y a des racines politiques à ça. Est-ce que c'est pas une sorte de délire de bobo qui, tout d'un coup, reviennent à des valeurs un petit peu passées qui, finalement, qu'ils ont été les premiers, finalement, à détruire eux-mêmes et qui, aujourd'hui, essayent de faire réapparaître de façon un petit peu tendance? Basile, comment tu le vis ça, toi ?
Ouais, bonne question. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même un enjeu, je vais pas dire de souveraineté alimentaire, mais quasiment de simplement subvenir à ses besoins localement, parce qu'il y a une réalité, notamment avec le dérèglement climatique, c'est que les récoltes deviennent de plus en plus incertaines. Il y a plein d'exemples comme ça. Ouais. Typiquement, là, je sais qu'en Italie, la récolte de noisettes l'an dernier a été extrêmement mauvaise, donc c'est impossible
donc,
de s'en procurer.
Quoi.
Plus du Nutella, mais il y a aussi des pâtes à tartiner éthiques qui sont vraiment super. Ouais. Mais il y a plein d'autres catégories de produits comme ça. Là, typiquement, en ce moment, c'est impossible de trouver de la moutarde en grain en France.
Oui, ça, c'est dingue.
Voilà, on dit moutarde de Dijon. En fait, dans les faits, ça vient du Canada. Et donc, on doit se tourner peut-être vers des produits un peu plus locaux, de saison. Et comme tu dis, c'est forcément faire preuve de bon sens et d'être peut-être un peu plus rationnel dans notre consommation plutôt que d'acheter des produits, et d'autant plus alimentaires, qu'on fait quatre fois le tour du monde et qui voyagent par cargo. Et c'est vrai que ces derniers temps, on voit un peu les limites en fait de de notre système alimentaire, avec tous les problèmes de transport liés au Covid, et là d'autant plus avec
la guerre en Ukraine qui va faire aussi de la paix. Ouais, bien sûr. Et Marie, est-ce que toi qui justement est une amoureuse des data, est-ce que c'est une sorte de rêve un peu, une sorte d'utopie cette histoire, ou vraiment, est-ce que vraiment le fait de transformer nos villes, nos maisons et d'avoir une forme de production personnelle peut véritablement avoir un impact sur le climat? Est-ce que ça tient la route quand on regarde les chiffres, ou est-ce que c'est juste une façon, est-ce que c'est pas un anti-anxiolytique pour nous permettre de mieux dormir et de se dire ah bah tiens, j'ai fait 3 tomates aujourd'hui, donc c'est bon, je peux dormir et je vais pas réfléchir à la pollution parce que j'ai fait mon petit truc de mon côté. Je suis un peu l'avocat du diable là, mais je vous pose la question naïvement.
Je pense, Carlos, que c'est un premier élément de réponse. Seul ça ne suffira pas, mais ouais. Tu vois, c'est voilà, il faudra réfléchir à d'autres choses, mais petit à petit. Et puis je pense que c'est aussi mettre en place une, tu vois, ça va être le cercle vertueux, quoi. Mais effectivement, seul non, ça ne suffira pas, mais c'est un premier élément de réponse. Et oui,
si on s'y met tous, ça peut marcher, quoi. C'est ça ce que tu veux dire?
Oui, et puis après je pense qu'il faudra trouver aussi d'autres solutions qui iront de pair avec l'agriculture urbaine, mais en tant que telle, évidemment pas seul, mais oui, c'est un début de réponse intéressant.
Et vous savez, je parlais de Limoges et de la campagne, hein, et on peut se dire, à la campagne, on a cette forme de consommation. Et en fait, quand on regarde un petit peu, c'est pas tout à fait le cas. Moi, je connais, beaucoup de gens qui vivent dans des campagnes reculées, que ce soit en Creuse, en Haute-Vienne ou en Corrèze. C'est pas forcément ceux qui mangent le mieux, hein. Nos agriculteurs, ils vont au supermarché, ils achètent de la merde, ils bouffent de la merde tous les jours. Pourquoi aussi? Parce que il y a une question de prix, Marie. C'est-à-dire que ces nourritures dont on parle, qui sont autoproduites ou qui sont de qualité bio, etc., elles ont un prix et elles sont pas bon marché. Et souvent, les gens n'ont pas accès finalement à cette agriculture de qualité.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs un des grands pain points en fait de notre système alimentaire, c'est qu'on a eu une révolution alimentaire peu chère finalement, qui a été alimentée par toutes sortes d'éléments. Ça peut être
les subventions, notamment.
Les subventions agricoles, comme disait Basile tout à l'heure aussi, la chaîne d'approvisionnement mondiale qui a effectivement montré ses limites, notamment pendant le Covid, l'apparition d'aliments ultra transformés, tu vois, enrichis en sucre, en additifs, etc., qui ont cette capacité, enfin, qui ont l'avantage de ne pas être chers. Mais effectivement, tout ça, c'est venu à un prix, au prix de la déforestation, de l'empreinte carbone, etc., de l'obésité. Donc voilà. Mais après, il y a une certitude, c'est que aujourd'hui, jusqu'à il y a peu, on pouvait manger peu cher, mais les choses vont changer. C'est-à-dire que ça ne va plus être possible sur le long terme, et ça va toucher tout le monde, y compris les personnes qui ont des revenus modestes. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a que le temps presse et qu'il y a beaucoup d'innovation en ce moment, quoi, parce que c'est pas durable sur le long terme. Et d'ailleurs on le voit déjà maintenant, alors forcément avec la guerre en Ukraine, et puis du coup aussi forcément la pandémie. Je lisais, je crois que c'était dans la Tribune, etc., il y a une étude qui montrait que les Français allaient dépenser, en raison de l'inflation et de la hausse des prix, à peu près 300 euros de plus par an pour l'alimentation, ce qui est énorme.
300 euros qu'ils n'ont pas, hein. Faut le rappeler, hein, parce que la majorité des gens n'ont pas cet argent-là. En tout cas, aux États-Unis, on sait qu'une famille américaine ne peut pas faire face à un incident financier de plus de $400. Donc, quand on dit 300 euros, c'est effectivement beaucoup d'argent. Et le prix à payer, il y a aussi une forme d'esclavage contemporain. Quand je parlais de ces paysans qui fabriquent ces produits ultra qualitatifs pour ces bobos parisiens qui les achètent sur les marchés de Montorgueil, eux, ils sont obligés d'aller bouffer à Leclerc, quoi, en fait, parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent pour consommer ses propres produits, quoi, en fait. C'est ça qui est assez... Y a vraiment un truc à régler là, quoi, en fait. C'est ça ce qu'on se rend compte. C'est que ceux qui produisent ces choses-là ne sont pas forcément ceux qui ont accès à cette même nourriture qu'ils produisent. Et il y a peut-être une forme d'esclavagisme là-dedans, quoi, en fait. Quoi. Alors, en France, et c'est encore plus vrai dans d'autres pays plus reculés. Une question pour toi, Basile. Est-ce qu'avec la crise qu'on vit actuellement, actuellement, le réchauffement climatique et toutes ces tendances bio qu'on voit, il faut s'attendre à une hausse des prix de la nourriture encore plus quoi à l'avenir. D'ailleurs, pour vous, chez Reglo, une nourriture pour chiens et chats, elle est en moyenne plus cher de combien de pourcentage à peu près? Quel est le pourcentage de... C'est plus cher que la nourriture normale?
C'est plus cher que de la nourriture qui a été ultra standardisée, produite en très très grande quantité et distribuée via des circuits de grande distribution qui justement permettent pas forcément aux petits acteurs d'émerger et de subvenir à leurs besoins. Mais on est dans l'ordre de prix en fait de nourriture premium et les hausses de prix du moment... finalement on parvient à les absorber et à ne pas les répercuter sur notre clientèle.
Vous y arrivez là en ce moment, mais vous allez y arriver pour combien de temps? Parce que Marie, elle parle d'une greenflation, j'adore le terme. Est-ce qu'il faut s'attendre à une greenflation?
C'est plus que probable, parce que tout à l'heure on le disait, la population humaine d'ici 2050 va augmenter d'environ 30%, mais pendant ce temps-là, de par les progrès technologiques, que ce soit sur les outils, les tracteurs, mais également surtout les engrais qui permettent beaucoup plus de productivité, mais sont pas durables sur le long terme, c'est-à-dire demandent beaucoup trop de ressources par rapport à leur apport en nutriments pour la population, vont pas suffire à nourrir en fait la population humaine d'ici 2050. Parce que lorsque la population augmente de 30%, la consommation de viande en fait va doubler. Parce que tout simplement, la viande devient un produit de grande consommation, accessible au plus grand nombre. Et par exemple, moi, si je remonte à la génération de mes grands-parents, mais même de mes parents, manger de la viande, c'était pas tous les jours. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus accessible, et notamment pour les pays en voie de développement. Seulement, il y a un souci dans l'équation. Aujourd'hui, l'industrie de l'élevage et de l'agriculture demande en fait, nécessite 75% des terres agricoles, c'est-à-dire, pour donner un ordre de grandeur, 35% des terres qui sont émergées dans le monde sont mobilisées pour nourrir les animaux d'élevage.
C'est dingue. C'est dingue.
C'est la situation à l'heure actuelle. Donc c'est un chiffre sur lequel on cherche à sensibiliser. Nous, on l'approche en fait par l'industrie de l'alimentation des chiens et chats, qui peut un petit peu faire sourire, mais il faut savoir que c'est quand même 20% de la viande dans le monde qui est consommée par les chiens et chats. Donc il y a un réel impact. Ouais. Et si on trouve pas de solution d'alternative à la consommation carnée d'alimentation humaine, mais aussi des animaux, on va dans le mur, on n'aura tout simplement pas les ressources. Et donc, pour reprendre ta question, effectivement, la nourriture va devenir une ressource rare, et on a peur en fait que malheureusement ça devienne de plus en plus compliqué de nourrir la population entière et qu'il y ait des crises, des famines ça et là dans le monde, et notamment dans les pays pauvres en particulier.
Alors, il faut changer notre modèle culturel, on l'a bien vu. Mais toi, ce que tu dis, Marie, c'est que la technologie peut jouer un rôle important là-dedans. Il se passe beaucoup de choses dans les laboratoires. Il y a des nouvelles protéines. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Quelles sont ces protéines alternatives qui, aujourd'hui, d'ailleurs, font vibrer tous les investisseurs ? Parce qu'on a vu aussi des levées de fonds spectaculaires. Et puis, il y a plein de programmes de recherche très ambitieux sur ce sujet. Tu nous en parles, Marie ?
Alors absolument, Carlos. Donc c'est ce que je disais un petit peu en intro. Donc on a les insectes, on a les protéines végétales, on a les algues. Ce qui est un petit peu plus original, ça va être la fermentation, mais qui en est vraiment à ses débuts. Et puis tout ce qui va être agriculture cellulaire. Alors l'agriculture cellulaire...
Explique-nous ça. Ouais, est-ce que c'est l'agriculture cellulaire ?
Ça consiste à cultiver des protéines animales en laboratoire en utilisant des techniques de biologie synthétique in vitro. Et en fait, l'objectif, c'est d'obtenir les mêmes caractéristiques de gustatives, nutritionnelles et de texture que les protéines animales afin de finalement pouvoir satisfaire le consommateur qui est évidemment soucieux de aussi passer là-dessus pour finalement préserver la biodiversité, le bien-être animal, les questions environnementales, etc. Alors, à savoir que l'agriculture cellulaire, ça ne concerne pas seulement les protéines animales. Donc, d'ailleurs, on voit énormément de choses en ce moment de l'agriculture cellulaire pour reproduire le miel, parce qu'il y a aussi des problématiques sur les abeilles, sur la consommation de miel. On le voit aussi sur grosso modo sur sur tout, quoi. Sur le chocolat, il y a deux startups qui innovent là-dessus. Donc voilà, l'agriculture cellulaire, c'est très intéressant. Ça sera un des éléments de réponse. Ça ne répondra pas à tout, mais en tout cas, ce qui est certain, pour en revenir spécifiquement aux protéines, c'est que on sait que la croissance démographique va entraîner une augmentation de 40% de la demande mondiale en protéines, et qu'aujourd'hui, en tout cas d'ici 2030, les protéines animales auront du mal à répondre à cette demande. Donc tu vois, c'est un fait. Il y a deux études comme ça qui sont intéressantes. Il y a un cabinet de conseil qui s'appelle Attie Kearney qui a estimé que 35% de la viande consommée dans le monde en 2040 proviendra de la viande in vitro. Et il y avait un autre cabinet qui s'appelle RethinkX qui disait, alors je sais pas si on peut dire optimiste, mais en tout cas qui disait que l'agriculture cellulaire remplacera 70% de la viande d'ici 2030. Wow. Et vraiment, ce qui est intéressant, je trouve, sur l'agriculture cellulaire versus, par exemple, l'agriculture végétale, c'est que quand on mange de l'agriculture, enfin, quand on mange, par exemple, un steak de végétal, bah, ça a pas le même goût que la viande, tu vois. Donc,
mal, parce qu'il y a, par exemple, une boîte à SF qui s'appelle Impossible Burger, et moi, j'ai l'habitude de manger leur burger chez Goat au Ferry Building à San Francisco. Je prends le Impossible Cheeseburger de Goat. Et sincèrement, c'est plutôt bon. Alors, t'as raison, ça se rapproche beaucoup d'un vrai burger. Et il y a une autre boîte aussi à SF, qui s'appelle Wild Type, qui fait de l'agriculture cellulaire pour cultiver du saumon. Alors là, c'est le truc qui est à la mode, hein. Il y a tous les milliardaires de la Silicon Valley, puis quelques célébrités comme Leonardo DiCaprio qui a investi dans cette boîte. Donc effectivement, on voit que c'est vraiment la tendance. On va fabriquer un saumon en laboratoire. Ça me rappelle ce film là, c'était quoi? C'était avec de Funès et Coluche là, Tricatel là, c'était La cuisine au beurre, ou je sais plus, je me rappelle plus de ce film, c'est un vieux film. Mais où grosso modo, on fabriquait en laboratoire de la bouffe, où il y avait déjà ça quoi. C'était dans les années 80, ça, quoi, en fait.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives assez formidables sur justement des substituts de viande. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter les lardons de la marque qui s'appelle La Vie. C'est assez formidable. On a un goût qui est juste exceptionnel, qui est bien meilleur que des lardons industriels. Et tout ça, en fait, grâce à la science. Il y a un des mecs qui a cofondé ça, qui a un doctorat, en fait, sur les graisses animales, truc assez dingue, ouais. Et qui a réussi, en fait, à reproduire le goût un petit peu juteux de la viande de porc qui est en train de cuire et qui donne ce goût savoureux, moelleux. Donc moi, j'y crois beaucoup et je pense que les plus carnivores d'entre nous auraient du mal à voir la différence, sincèrement.
Alors vous êtes dans Silicon Carnet et on parle du futur de la food cette semaine avec mes invités. J'ai en ma compagnie Marie Dolé qui est business analyst et development manager à BPI France et qui aussi édite cette fameuse newsletter In Bed With Social ou In Bed With Tech si vous préférez la version française. Et je suis aussi en compagnie de Basile Lègre qui est un des cofondateurs de cette startup appelée Reglo, R-E-G-L-O, qui fait de l'alimentation pour chiens et chats et qui utilise notamment de nouvelles formes d'alimentation. C'est très très intéressant. On continue cette conversation avec nos invités. Si vous aimez Silicon Carnet, n'hésitez pas à le faire savoir. La meilleure façon d'aider cette émission, c'est de partager ces épisodes à travers vos réseaux sociaux. Alors merci d'avance pour tous vos partages et puis vos messages aussi et vos recommandations, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Alors, il y a une autre tendance aussi très intéressante, Marie, dont tu parles aussi dans ta newsletter, qui est cette tendance de transformer un peu la nourriture en une sorte de médicament. Ça nous rappelle ce que disait Hippocrate, que je me rappelle plus de la phrase exacte, mais ta nourriture est ta médecine, quoi, en fait, et que la médecine soit ta nourriture. Je me rappelle plus de la phrase exacte. Je sais pas si tu l'as en tête, Marie.
Ah non, je l'ai pas en tête, mais oui, effectivement, je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Ouais, il y avait une phrase d'Hippocrate qui disait que ta nourriture soit ta médecine et que la médecine soit ta nourriture ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que il y a cette tendance aussi de fond qui est de dire que la nourriture, c'est pas simplement fait pour s'alimenter, mais c'est aussi pour se soigner?
Absolument, Carlos. Alors, on appelle ça la food fonctionnelle.
La food fonctionnelle. Okay.
Exactement. Alors, ça, je trouve que ça se dit mieux en anglais, functional food, mais bon, écoute, en tout cas, c'est la bonne traduction, et qui est en train d'être, qu'on observe, et c'est un boom qui est énorme. Donc, je vais donner quelques exemples concrets. Si tu regardes, par exemple, on va dire tout ce qui est boisson, tu noteras que aujourd'hui, l'offre est hyper diversifiée. Tu vas avoir des boissons à base de kéfir, à base de kombucha pour
l'amitié. Ça, c'est super à la mode à San Francisco, hein, ça, le kombucha, tout le monde boit ça, quoi, en fait. Hein,
c'est grande tendance. Tu vas avoir ensuite, par exemple, des boissons qui sont censées agir sur ton humeur grâce à l'ajout d'adaptogènes, donc des champignons notamment et de nootropiques. Tu vas avoir.
Du CBD aussi, hein, puisqu'on le voit beaucoup aussi, de rajouter du CBD dans certaines nourritures, du chocolat au CBD, des cookies au CBD, etc., etc.
Alors, attention quand même, parce que tu sais que c'est un feuilleton judiciaire en France, la question du CBD.
Ah ouais,
et la Novel Food, d'ailleurs, s'est prononcée il y a quelques jours. Et c'est pas encore dans l'air du temps en France. Hein. C'est
d'accord. Ok. Ah bah ici, tout le monde bouffe des cookies avec du CBD, quoi. Est-ce que vous mettez du CBD dans la nourriture pour chien? Ça, c'est une question, ça. Voilà, vous avez réfléchi à ça?
Non, nous, on le fait pas, mais c'est drôle. Mais j'ai un copain, justement, qui fait également du pet food à base de CBD. Voilà, il y a des propriétés antioxydantes hyper intéressantes, relaxantes aussi. Bon, ça reste à être prouvé, mais en tout cas sur tout ce qui est superfood et quasiment alicament, je pense bien loin de des gros coups marketing à la Actimel il y a quelques années où il fallait boire un camion citerne pour avoir des bienfaits sur la santé. Il y a quand même
des choper une chiasse incroyable aussi en même temps qu'en fait.
Voilà, je me prononcerai pas là-dessus, mais il y a quand même des. Je pense avec un peu de bon sens, il y a des aliments qui ont des propriétés exceptionnelles. Hein, on connaît tous maintenant les bienfaits sur la santé d'un régime méditerranéen, sur la longévité.
L'huile d'olive, la camomille en fin de repas pour digérer, on connaît tout ça, ouais, c'est
voilà,
vrai.
Le frais de saison, les bons produits avec des bonnes graisses. Et oui, il y a des catégories super aliments qui sont en train d'émerger, la poudre de moringa, les baies de goji, et nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est des aliments qui allient des propriétés nutritionnelles exceptionnelles, qui sont bourrés de nutriments, de vitamines, antioxydants, etc., mais qui ont aussi un impact environnemental, en fait, qui est beaucoup plus réduit que les alternatives habituelles. Les insectes, évidemment, demandent beaucoup moins de ressources. Ça s'explique assez simplement. En fait, voilà, pour produire un kilo d'insectes, on a besoin d'un peu plus d'un kilo de végétaux. Pour produire un kilo de viande de bœuf, c'est plus de 15 kilos. Donc l'équation est vite résolue.
Le rapport
est
énorme.
Il y a d'autres aliments qui sont tout aussi extraordinaires, on y réfléchit, comme les algues. Excellent pour la santé, il y a des chips aux algues qui existent aujourd'hui, qui sont distribués un petit peu en France, qui ont des Nutri-Score ABC qu'on verrait jamais dans les autres produits de la catégorie. Et par ailleurs, ce qui est intéressant au-delà de la nutrition, c'est que cultiver des algues, ça a en fait un impact carbone qui est négatif, c'est-à-dire ça va absorber énormément de CO2 et donc avoir un impact positif sur la planète tout simplement.
Non, ça c'est super intéressant effectivement, et t'as raison de rappeler les chiffres qui sont assez impressionnants, mais c'est vrai que je me dis aussi qu'il faut faire très attention, parce que on a vu un peu cette tendance là il y a quelques années, notamment dans le domaine de la cosmétique, où on nous a présenté des produits avec des vertus incroyables. Je me rappelle de ce shampoing ou de ce truc là, de ce savon ou Shuaya, où on allait chercher des produits au beurre de karité, des îles bidules, etc. Mais c'était que de la merde en tube, quoi, j'allais dire, qu'en fait, mais pratiquement, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est fait berner complètement avec ces trucs-là dans le domaine de la cosmétique. Il va falloir faire très attention à ce que la chose n'ait pas lieu dans le domaine de la nourriture aussi, avec tout ce marketing qui finalement leurre complètement le consommateur. Donc il y a, je ne sais pas si on peut faire confiance aux grandes sociétés alimentaires, en fait, pour introduire des produits qui sont véritablement des alicaments, comme dit Basile. Marie, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura évidemment une part de vrai, et puis il faudra faire très très attention à l'aspect marketing, parce que tu vois, on parlait de segments, donc je t'ai parlé du segment microbiome, gut health, il y a le segment beauté. si tu prends le segment beauté, tu as pas mal de sociétés qui se lancent et puis qui vendent de la beauty food. Alors, il y a une marque australienne qui s'appelle Beauty Food et qui ne vend que de la food censée t'aider à être plus belle. Voilà, tu vois. Et en fait, concrètement, en fait, c'est grâce à l'ajout de collagène ou de choses comme ça dans des snacks et des choses comme ça. Sauf qu'on sait qu'en fait, le collagène que tu manges, a priori, tu le métabolises pas comme ça, tu vois. Donc, du coup, tu vois, c'est. Je pense qu'il faut être capable, effectivement, de faire la part des choses. Maintenant, un point qui est assez intéressant, c'est que si tu reviens aux fondamentaux, qui sont, bah, je veux dire, les légumes, les fruits, etc., qui vont être sans pesticides, cultivés bio, etc. et tout, bah, on sait que ça, par contre, c'est bon pour la santé. Et tu vois, aux États-Unis, il y a des praticiens qui se mettent à prescrire des légumes. Alors, évidemment, culturellement, en France, on n'est pas du tout au même stade. Tu vois, bon, j'ai tendance à penser qu'on mange mieux et qu'il y a moins de problèmes d'obésité.
Non, c'est le cas, je confirme.
Mais tu vois, c'est intéressant, quoi. Donc, si ça se trouve,
Il y a des enfants aux États-Unis qui n'ont jamais mangé de haricots verts ou de carottes. Hein. Je crois que c'est... je parle même pas d'épinards, quoi, en fait. Mais je pense qu'effectivement, il y a un déficit sur certains aliments qui est évident. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle d'un autre aliment très courant. C'est le lait. Et alors là, j'ai été stupéfait de voir qu'on a un vrai problème avec le lait, Marie.
Bah, qui est pareil, en fait, finalement, que, enfin, d'une certaine façon, que les protéines, enfin, de manière générale, les protéines animales.
Que la viande rouge, quoi.
Voilà, ouais. on peut pas répondre à la demande. Il y a des problèmes aussi éthiques, de durabilité, et, tu vois, de traitement des animaux. Enfin, tu vois, encore une fois, les tendances macro. Mm-hmm. Et donc là, on voit qu'il y a des alternatives qui se dressent. Donc aujourd'hui, même si le lait d'animal reste le lait le plus consommé, il y a les alternatives végétales qui sont en pleine explosion. Je veux dire, quand tu vas aujourd'hui à un magasin bio, t'as le lait à base d'avoine, de soja,
d'amande, ouais.
Aux États-Unis, t'as même la patate maintenant depuis pas très longtemps. Enfin, tu vois,
le
lait de patate, parce qu'en plus, effectivement, ça revient à ce que disait Basile tout à l'heure, qui est en termes de carbone, qui est nettement meilleur que tous les autres. Donc voilà, tu vois, on en revient un peu aux considérations qui changent maintenant quand t'achètes un produit. Mais voilà, et puis après, t'as aussi l'in vitro sur le lait qui commence à émerger, quoi.
Parlant des animaux justement et de la production de lait, l'industrie laitière elle a quand même fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, mais Basile, c'est pas suffisant, ça réglera pas. Ils sont responsables quand même de beaucoup des émissions de CO2, cette industrie.
Oui, très, très clairement. Et après, sur le lait en particulier, sans la jouer Brigitte Bardot, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de considérations un petit peu éthiques qui se posent, ouais. Quand on sait qu'on est quand même la seule espèce d'animaux à consommer du lait d'autres animaux, ouais. Qui n'est du coup pas forcément, il n'est pas approprié à notre système digestif.
Non, on n'est pas des veaux, quoi.
Voilà, je te confirme. Et donc, c'est pas très digeste pour nous, c'est même pas bon pour la santé, c'est juste quelque chose qui est rentré dans les mœurs, dans des époques de grande consommation, et aujourd'hui, beaucoup de gens sont au courant quand même que, bah voilà, pour produire du lait à longueur d'année, il faut que les vaches laitières soient en gestation de manière artificielle, soient inséminées de manière artificielle très régulièrement, qu'à la naissance du veau, on leur arrache sous 48 heures, et de cette manière, on a des veaux qui sont abattus très très jeunes pour la viande, des vaches laitières qui produisent à longueur d'année, et dès que c'est plus efficient, optimal, selon la logique capitaliste, eh bien, les vaches partent à l'abattoir pour la viande et sont écoulées pour trois fois rien. Et donc, on se dit, est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête ?
C'est un désastre.
Et ouais. Voilà, et donc, de plus en plus de personnes apprennent ces conditions, et c'est vrai que, voilà, au-delà de l'impact environnemental et de l'utilisation, on va dire, efficiente des ressources, il y a quand même des choses dans notre système alimentaire qui ne sont pas tout à fait logiques.
Ouais, absolument. On risque de voir, Marie, que finalement le lait d'origine animale ne va servir maintenant plus qu'à fabriquer du fromage, du beurre, des yaourts, des produits transformés. On risque de voir effectivement s'imposer ces nouvelles alternatives de lait végétal dont tu parlais. Et en même temps, quand on regarde le prix justement du beurre et du fromage, c'est devenu pratiquement des produits de luxe. Hein. C'est prix sont en train d'augmenter considérablement.
Oui, mais tu as aussi effectivement les alternatives, on va dire, végétales de fromage, hein, qui sont aussi en plein boom.
Ouais, mais un bon camembert au lait cru, quoi, en fait. Ça veut dire que, enfin, bon, je sais pas, j'ai pas goûté un camembert au lait de patate, quoi. Je sais pas ce que ça va donner, quoi, cette histoire, mais ça vaudrait le coup d'essayer. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'effectivement, c'est effectivement très bon. En tout cas, ce qui est certain, Marie, c'est que les nouvelles générations, moi, je vois, j'ai deux filles qui ont 15 ans et 18 ans. Chaque fois que je vais faire les courses le samedi, c'est moi qui fais les courses et je leur dis qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Et à chaque fois, maintenant qu'on en parle, elles me disent pense à prendre du lait d'amande ou des trucs comme ça. Et parce qu'en fait, effectivement, elles boivent plus du lait de lait de vache, quoi, en fait. Il y a que moi. Je suis le seul veau de la famille, en fait. Je m'en rends compte, quoi. C'est vrai.
Et non, nous c'est pareil à la maison. On achète encore un petit peu de lait, mais enfin de manière générale, moi je suis passée au lait végétal depuis bien longtemps et je diversifie. Chaque fois que je vois un nouveau lait en rayon, je l'achète. Donc là, j'ai une espèce de lait de pistache que j'ai pas encore goûté, mais voilà.
Alors un truc très intéressant dont tu parles, Marie, c'est le fait que ces produits qui sont très authentiques, à base de produits très naturels, deviennent un peu des produits réservés aux plus riches, et on constate depuis plusieurs décennies, alors moi d'origine espagnole, j'entendais déjà ma famille depuis déjà plus de 20 ans dire, on peut plus trouver de jambon le rabugo, le pata negra, il part tout de suite en Chine, on l'a plus pour nous les espagnols, on n'a plus que le jambon de merde, quoi, grosso modo, les bons produits, ils s'en vont à l'international, ils quittent en fait les marchés locaux, pourquoi ? Parce qu'ils sont vendus sur des marchés avec des gens très fortunés qui en ont fait un produit d'exception. Et ça, c'est une tendance qu'on risque de voir continuer à progresser, Marie ?
Bah, je pense que ça s'intègre dans la problématique qu'on a déjà abordée, qui est globale, qui est...
Tu parles du concept de drop dans ta newsletter. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. C'est quoi cette histoire de drop ?
Ah, alors oui, non, effectivement. C'est-à-dire que là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de
c'est quoi, c'est un NFT, ça ? C'est quoi ?
Non, c'est le concept du drop, en fait, tu sais, c'est de faire un petit peu des ventes, on va dire, éphémères et trending, etc. Bah, en fait, tu reprends les codes de c'était dans le prêt-à-porter, hein, tu vois. Tu as eu des marques comme ça qui se sont...
Des ventes privées, quoi.
Qui se sont lancées, voilà. Tu sais, ça met en avant un petit peu la rareté. Ouais. Et du coup ça marche très bien, quoi. Du coup, ça cartonne. Et en fait, cet élément qui était à la base plutôt sur du prêt-à-porter, bah aujourd'hui on la retrouve dans la food. T'as même des startups qui sont là-dedans et qui font des drops de food avec des chefs, tu vois, sur des éditions limitées. Tu as par exemple en France un exemple qui est aussi fonctionne en mode drop, c'est les sauces matchy par exemple, qui se vendent hyper vite et ça devient presque, tu vois, des objets un petit peu culturels. D'ailleurs, l'intersection food fashion est très 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 importante, hein. T'as des
grandes marques, des collections, quoi, en fait, pratiquement.
Ouais, absolument. Ouais. C'est un phénomène de dropagande, en fait, quelque part.
On va bientôt voir apparaître la Food Week, quoi. Grosso modo, ça va être comme la Fashion Week. Il va y avoir des Food Week qui vont être organisées. C'est vrai, ce parallèle entre le monde de la mode et le monde de la food, il est intéressant, Basile. Hein, on le voit s'affirmer de plus en plus, cette histoire-là.
Oui, après, voilà, je vais parler de ce que je connais. En pet food, quand même, il y a un certain pragmatisme qui règne. Et c'est vrai que dès lors que voilà, les besoins nutritionnels des chiens et chats sont remplis, qu'ils mangent avec entrain, qu'ils digèrent bien, je pense que le contrat est rempli. Après, nous, on essaye d'ajouter une couche quand même de
vous n'avez pas des produits saisonniers, là, tout d'un coup, c'est flash, il y a un produit un peu spécial que vous lancez, unique, avec une quantité limitée, vous ne faites pas ça chez Reglo ?
Non, on ne le fait pas, en fait. Aujourd'hui, on propose des croquettes, donc c'est un produit qu'on veut transformer le moins possible. Et on va utiliser en fait des ingrédients qui sont extrudés, qui sont cuits, mis sous haute pression, et de là on a un produit qui se conserve pendant plusieurs mois, plusieurs dizaines de mois s'il le faut, et donc en fait en utilisant simplement des conservateurs naturels, des bons ingrédients, il n'y a pas ce sujet là Mais c'est vrai qu'il y a une grosse tendance quand même en pet food, c'est l'alimentation fraîche.
Ouais, on va en parler.
Et,
ouais.
et en fait, donc on se retrouve avec des offres qui marchent hyper bien, c'est-à-dire à base de viande fraîche, cuisinée dans des conditions, dans des labos qui pourraient faire de la nourriture pour humains, avec des pièces de boucher d'ailleurs propres à la consommation humaine. Et donc où il y a effectivement des produits de saison, j'imagine, du basilic, ce genre de choses. Seulement, ça va un petit peu à contresens avec les enjeux climatiques dont on parlait il y a quelques minutes.
Et les recommandations vétérinaires qui disent qu'il ne faut pas varier l'alimentation des animaux et qu'au contraire, une alimentation saine pour un animal, c'est une alimentation qui est plutôt constante et un petit peu persistante, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner à peu près la même quantité et la même alimentation à son animal. L'animal, il n'en a rien à faire de la variété, finalement.
Oui, dans les faits, et ça rejoint ce dont on parlait au début de l'épisode, sur l'anthropomorphisme, on se dit, je vais acheter des barquettes de pâté au canard, au chevreuil, au sanglier, et puis à la truite pour mon chat, pour lui faire plaisir, lui donner des crevettes, varier un petit peu, parce qu'on se dit, on sait que si on se fait des dîners un petit peu sympas de temps en temps, ça nous change, on est content. Dans les faits, t'as totalement raison, l'animal s'en contrefiche, mais ça, en fait, c'est les grandes marques s'adaptent aux requêtes, on va dire, aux envies des consommateurs, et on se retrouve avec ce genre de choses assez drôles, mais effectivement, dans les faits, t'as tout à fait raison, la nutrition animale, ça s'improvise pas, c'est fait par des ingénieurs, par des vétérinaires qui sont experts en nutrition, et donc avoir un repas équilibré, complet, ça demande beaucoup de travail, pourquoi pas varier s'il est toujours complet et équilibré, mais dans les faits, effectivement, un chien ou un chat peut manger quasiment la même nourriture toute sa vie sans aucun problème. Ouais.
Marie, toi tu parles du human grade au human look. C'est-à-dire il y a cette recherche permanente d'une forme de qualité et d'un anthropomorphisme déprimant quand on parle justement de la nourriture pour chiens et chats. Tu explique-nous ce que tu entends par human grade ou human look.
Alors ça vient pas de moi, le human look oui, mais le human grade ça vient pas de moi, c'est un petit peu la dénomination de cette pet food en fait fraîche, et en fait l'idée c'est de dire que c'est une food qui est tellement bonne en fait que l'humain pourrait la manger, et dans certains cas bien marketés t'as même des pubs où en fait tu vois le propriétaire qui mange pour montrer qu'en fait c'est une nourriture qui est tellement bonne que tu vois il pourrait la manger. Et moi je suis convaincue que quand tu vois ce phénomène d'anthropomorphisme, qu'à terme on pourrait même avoir un phénomène où tu partages la nourriture, même si encore une fois je sais que c'est pas les mêmes enjeux etc, mais tu vois deux exemples là-dessus. Premièrement, il y a une marque française qui cartonne et qui s'est implantée aux États-Unis, je sais pas si Basile la connaît, qui fait des macarons pour chiens de luxe. Il s'appelle Bonnet Filou. Et je crois que c'est en décembre de l'année, pas de cette année, mais de l'année dernière. Alors, je n'ai pas regardé les chiffres cette année, mais sur Amazon, c'était le top vente au mois de décembre, tu sais, sur tout ce qui était friandises. Je crois qu'ils avaient fait 200 000 dollars de vente. Et c'est des macarons pour chiens.
En même temps, on se dit que cet anthropomorphisme, il sert aussi la cause, puisque finalement, le fait de rapprocher les animaux de nous fait qu'aussi, on va peut-être transformer culturellement notre regard sur les animaux, qui peut nous aider justement à moins les consommer et donc à réduire la consommation de viande et de choses comme ça. Donc, il y a quelque part, effectivement, on se dit c'est ridicule, mais en même temps, ça participe à la transformation culturelle dont on a besoin et dont tu parlais, Basile, non ?
Oui, je me demande quand même, je m'interroge, c'est un entre-deux, parce qu'effectivement, là, typiquement aux US, on parle de pet parents, où il y a un lien qui est plus qu'émotionnel, hein, qui est quasiment familial vraiment avec les animaux de compagnie. Tu parlais de macarons, Marie. Il y a des marques de gâteaux d'anniversaire aux US qui cartonnent, qui ont un succès fou. Et je pense que c'est des relations très émotionnelles, quasiment irrationnelles dans certains cas, où on va prendre autant soin en fait de son animal que de son enfant. Il y a des comportements qui sont intéressants d'observer quand même dans notre industrie. C'est que globalement, je sais que c'est le cas en France, au moins en tout cas, on va attendre un petit peu plus longtemps avant de faire des enfants, et donc on va avoir tendance à adopter des animaux plus rapidement en revanche, et donc on va les gâter comme des enfants, et ça passe aussi par la nourriture, et ça c'est tant mieux en fait. On va leur donner de la nourriture qui est beaucoup moins transformée, dont on connaît réellement la composition, et ça résulte directement en fait dans une meilleure espérance de vie et une vie plus heureuse, plus épanouie, plus énergique. Après, sur le le rapport avec les autres animaux, les animaux d'élevage. Malheureusement, je pense pas qu'il y ait de lien, il y ait de lien direct, mais en tout cas, ça devient des sujets de société qui prennent tellement d'ampleur qu'on est obligé de se remettre en question et peu importe à quelle génération on appartient aujourd'hui.
Alors, aux États-Unis, tu as raison, et moi je vis à San Francisco. À San Francisco, il faut savoir qu'il y a plus d'animaux de compagnie qu'il n'y a d'enfants de moins de 12 ans dans la ville. C'est donc, clairement, il y a ce phénomène-là où les gens adoptent des animaux plutôt que de faire des enfants, pour une raison, je pense, qui est aussi purement financière, c'est que ça coûte tellement cher, l'éducation, la santé, quoique la santé animale aussi est très très chère aux États-Unis. Mais je pense qu'effectivement, il y a cette nouvelle génération qui s'engage plus tardivement, tu as absolument raison, ça c'est un phénomène Gen Z qu'on constate, et qui fait qu'on les voit, prendre un chien plutôt que de faire un enfant, hein. C'est terrible à dire, mais c'est exactement ça. Et il y a effectivement un anthropomorphisme qui est colossal. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai amené ma chienne, j'ai un Australian Shepherd de 4 ans, pour chez le toiletteur. Et donc, il y a un formulaire à remplir pour le toilettage de mon chien. Et par exemple, on m'a demandé le sexe de mon chien. Alors, j'avais mâle, femelle, mais j'avais aussi non déterminé. C'est-à-dire que mon chien peut être... Alors, mon toiletteur est à Castro, à San Francisco, donc peut-être que c'est pour ça. Mais il y a grosso modo, je peux dire que mon chien est non le sexe de mon chien est non déterminé. C'est-à-dire, ou transgenre, quoi. J'en sais rien. C'est hallucinant, quand même, cet anthropomorphisme. Hein. On n'en est pas là en France, hein.
Je pense pas. C'est peut-être la période qui veut ça, mais c'est clair que fêter l'anniversaire de son chien, en tout cas... c'est un peu le béaba, et évidemment c'est quasiment honteux en fait quand on a un chien de pas fêter son anniv, quoi.
Bon, je fête pas l'anniversaire de mon chien. Il est né le 10 juillet, je l'ai appelé Summer, et le prochain que j'aurai, s'il est né le 10 décembre, je l'appellerai Winter, donc c'est assez simple. Il y a un phénomène aussi super intéressant dont tu parles, Marie, qui est le do it yourself, hein. Alors ça, on le voit notamment dans l'alimentation pour chiens et chats, mais aussi de plus en plus, hein, c'est hérité du fait que maintenant c'est important de faire à la maison sa propre nourriture, Marie ?
On l'a vu pendant le confinement, notamment avec le phénomène sur le pain. Tout le monde a commencé à faire son pain à la maison. Donc voilà, sur l'alimentation pet food, ça s'observe aussi. Il y a une start-up comme ça qui s'est lancée il y a un an, je ne sais pas si tu la connais, Basile, qui s'appelle VetChef. Et qui en substance un thermomix canin. et ils vendent, en fait, parce qu'évidemment, il y a quand même des contraintes liées à la manière dont tu nourris ton chien ou ton chat. Et donc, ils te vendent, en fait, des suppléments. Donc, tu as des recettes avec la viande, et puis après, tu mets les vitamines ou en tout cas les minéraux avec les bons dosages. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, hein. Il y a une grosse boîte américaine qui a fait une énorme levée de fonds qui vend aussi des sachets de do-it-yourself, quoi. Alors, je sais plus comment. Dogs for Food. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, donc on le voit chez les animaux, on le voit chez l'homme aussi, quoi.
Tu parlais d'une startup qui s'appelle Finish It Yourself, je ne sais pas si c'est ça dont tu veux parler,
alors
Marie.
Non, en fait mon concept c'était plutôt de dire qu'on a eu beaucoup de do it yourself. Le problème avec le do it yourself, c'est que il faut quand même le faire, et que tout le monde n'est pas doué. Et que moi, j'étais convaincue qu'il allait avoir en fait un nouveau phénomène que pour le coup, j'ai baptisé le finish it yourself. Finalement, tu sais, comme quand t'achètes des cookies.
C'est Marie, la pub Marie, en fait. Tu te rappelles, c'est moi qui l'ai fait, quoi, en fait, avec Valérie Lemercier. C'était déjà du finish it yourself.
Bah ouais, quand t'achètes les kits et puis t'as juste à rajouter un œuf et puis, la moitié d'une plaquette de beurre, on peut pas vraiment dire. Mais tu vois, il y a ce côté, tu l'as quand même fait toi-même. Donc voilà, donc du coup, ça plaît bien. Et voilà, et tu commences à le voir, en fait, dans la food, ça commence à s'ancrer de manière de plus en plus prononcée, et dans pas mal de verticales. Donc, je vais te donner un exemple sur, par exemple, la pizza. Si tu regardes, par exemple, les Reddit qui sont consacrés à la pizza, il y en a un notamment. Aujourd'hui, tu verras qu'il y a quasiment que des pizzas faites maison grâce à la nouvelle génération de fours, Ouni et tout ça, qui te permettent d'avoir une pizza napolitaine chez toi, puisque tu as des fours pour faire la la pâte comme il faut, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'on va avoir ça un petit peu partout, quoi. Tu vois, on va avoir de plus en plus de d'outils, de techno, etc., qui vont nous permettre de faire les choses soi-même. Quand on le voit sur le lait végétal aussi, hein, tu as de plus en plus de services qui te permettent, enfin, d'électroménager qui te permettent de faire toi-même ton lait d'amande. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal d'opportunités pour du coup des startups d'accompagner le consommateur sur des produits peut-être un peu plus complexes, voilà.
Basile.
Ouais, non, je suis totalement raccord avec toi, Marie. Et je trouve que c'est un petit peu en fait en antagonie à la surconsommation de plats préparés hyper sucrés, hyper transformés en fait qu'on connaît et qui sont majoritairement vendus en grande distrie, où on a envie en fait de savoir ce qu'on consomme, de manger des produits plus simples. Il y a ce truc un peu satisfaisant de faire soi-même et hyper intéressant ce que tu expliquais sur l'espèce de Thermomix pour cuisiner pour son chien. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui en fait avaient l'habitude d'acheter de la viande bio, typiquement la viande de bœuf ou de poulet chez le boucher et de cuisiner pour leurs animaux, mais qui au final voilà veulent bien faire d'un côté, mais il y a toujours cette approximation, ce risque de pas avoir des plats complets, équilibrés, et je pense que c'est totalement dans l'air du temps et ça s'applique totalement aux animaux de compagnie également, quoi.
Bon, écoute, je pense que vous êtes sur un créneau en tout cas qui est super porteur, la pet food, et je trouve que ce que vous faites chez Réglo est assez réglo et c'est top. Merci, parce que le marché de la pet food en France, hein, tu le disais, Marie, dans ton article, c'est estimé à plus de 4 milliards d'euros, et les ventes auront augmenté de 48% en 10 ans. C'est un vrai secteur en pleine explosion. D'ailleurs, les grandes marques s'y sont pas trompées. Tu nous parlais de la bière pour chien du belge Heiner The Busch, mais il y a aussi maintenant la glace pour chien, Ben & Jerry qui fait partie d'Unilever, qui sort visiblement des glaces en pot pour les animaux. Alors c'est vrai que ma chienne adore, hein, la glace, hein, et le yaourt. Alors parce que ça c'est vrai, les chiens adorent le yaourt. Alors il y a Chobani qui est cette marque à San Francisco qui est super super tendance, hein. C'est une marque Solarpunk. On a fait un article, une émission sur le Solarpunk, qui est un phénomène très très intéressant. Chobani, c'est ce géant américain des yaourts grecs, hein, qui visiblement sortirait un yaourt pour vos chiens. Donc on voit qu'il se passe plein de choses, que ce soit pour l'humain ou pour les animaux. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette conversation avec moi. C'était passionnant. Écoutez, je vous souhaite bon appétit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!